Bonjour à tous, soyez les bienvenus dans Grand Main vous face. Doit-on chercher dans la lecture de Montaigne un chemin pour mieux vivre une existence qui oscille bien trop souvent comme un pendule de la souffrance à l'ennui et inversement, peut-on y trouver une quelconque sagesse apte à nous rendre la vie moins pénible ? Montaigne, qui connut bien des désastres personnels et assista à bien des calamités humaines, peut-il éclairer nos temps difficiles ? Pourquoi les essais de Montaigne agissent-ils comme de précieuses lanternes pour avancer dans la vie ? Pourquoi la prose de cet écrivain génial et de ce grand philosophe occupe-t-elle une place singulière dans la vie de ses lecteurs les plus fidèles ? Peut-être parce que Montaigne était un être humain d'exception, libre et imparfait. Bonjour Christophe André.
Bonjour Ali.
Je sais que vous êtes un grand lecteur de Montaigne. Quel est le menu de vos choses vues ?
Eh bien, nous parlerons, en plus de Montaigne, d'Orient et d'Occident, de beaux-pères et d'hélicoptères, et de maîtres et maîtresses de sagesse.
Christophe André, en direct de chez lui. Bienvenue dans Grand Main vous face, la vie quotidienne mode d'emploi.
France Inter, Ali Rébéi, Grand Bien vous face.
Bonjour André Comte-Sponville.
Bonjour.
Philosophe, vous êtes notamment l'auteur du petit traité des grandes vertus et vous venez de publier chez Plon un passionnant dictionnaire amoureux de Montaigne. Bonjour Frédéric Schifter.
Bonjour.
Écrivain, ancien professeur de philosophie, il y a quelques années, vous avez publié un essai personnel, Le plafond de Montaigne, et vient de paraître chez Séguier, Contre le peuple. Alors, André Comte-Sponville, comment présenter Montaigne à une intelligence extraterrestre qui aimerait savoir qui il est ?
D'abord que c'est un être humain, c'est pas une intelligence extraterrestre, mais aussi que c'est l'un des plus grands écrivains français. Le plus grand écrivain français, disait André Gide, qui s'y connaissait en littérature. Moi, je dirais l'un des deux plus grands écrivains français, le second étant Victor Hugo. Mais ça dit assez à quel niveau on se situe. Sauf que par ailleurs, cet écrivain de génie est aussi, vous l'avez dit, un très grand philosophe, celui qui ouvre la philosophie moderne et qui ouvre la tradition française en philosophie, d'une philosophie à la première personne, une philosophie liée à l'autobiographie, liée à la littérature. Troisièmement, ce philosophe est aussi, et c'est pas vrai de tous les philosophes, il est aussi un maître de sagesse. Il nous offre un art de vivre d'autant plus précieux qu'en vérité, il nous offre un art de vivre partant de catastrophes. Et Dieu sait que les catastrophes du temps de Montaigne, la peste, les guerres de religion, étaient encore bien plus graves que les catastrophes qui nous occupent aujourd'hui. Enfin, cet écrivain de génie, ce grand philosophe, ce maître de sagesse, c'est aussi un type formidable. C'est un être humain, précisément, incroyablement attachant, lucide, d'une liberté d'esprit incroyable. C'est le plus libre des esprits libres. Et la conjonction de tout ça fait que quand on lit Montaigne, et tous les plus grands l'ont lu et l'ont dit, quand on lit Montaigne, on n'y pas seulement un auteur, on rencontre un ami. Et la conjonction entre l'amitié et l'admiration dans une vie de lecteur, c'est quelque chose de tout à fait exceptionnel.
Frédéric Schifter, comment présenteriez-vous Montaigne à une jeune fille ou à un jeune homme de 20 ans qui ne l'aurait jamais lu ?
Oh, de la même manière que André Comte-Sponville, évidemment. Et moi, j'insisterai sur le caractère. Oui, c'est vraiment un ami. Quand on lit Montaigne, alors évidemment, passer les difficultés, peut-être de la langue ancienne, enfin de l'ancien français, mais au fond, c'est une difficulté qui est vite surmontée en réalité. Eh bien, on s'aperçoit qu'on a là un homme, effectivement, qui vous parle directement. Il vous parle de lui, il vous met dans la confidence, et puis, par cercle concentrique, comme ça, de plus en plus grand, il vous parle de l'existence, il vous parle du monde, il vous parle de son expérience du monde, et vous vous y retrouvez d'une certaine façon. Et on est loin du traité académique, du traité professoral. On est véritablement dans une forme littéraire qui est très, très amicale. C'est l'essai, c'est le propre de l'essai, qui est une forme qu'il invente et qui porte bien son nom. Il tente, voilà, de rendre compte de son expérience du monde, et par là même, on s'y retrouve. Et alors, ce qui est bien aussi avec lui, c'est que, comme il dit, il écrit à saut et à gambade, c'est-à-dire qu'on croit d'abord qu'il va vous emmener vers une direction, c'est le titre du chapitre d'un de ses livres, des essais, et puis finalement, non, il s'en va, de ci, de là, il baguenode, et ça, je trouve que c'est très, très stimulant pour l'esprit, parce qu'on a affaire aussi à une forme de philosophie qui est celle du dilettante, si vous voulez. Je suis très attaché à ce mot, puisque au fond, le dilettante, c'est celui qui fait les choses par plaisir. Et là, on voit bien que Montaigne écrit pour son plaisir, mais aussi pour le plaisir de son lecteur. Et je rappelle que le dilettante, c'est bien de l'italien diletto, qui veut dire le plaisir. Hein,
voilà. André Comte-Sponville, on ne peut pas dire que la vie de Montaigne fut exempte de drames personnels, de désastres humains. Quand il meurt le 13 septembre 1592, dans son manoir bordelais, à l'âge de 59 ans, c'est une libération. Toute sa vie, Montaigne a souffert de crises de goutte, de coliques néphrétiques, de poussées de mélancolie. Il perd 5 de ses 6 enfants en bas âge, une souffrance qui le rendait inaccessible à la plupart des joies de l'existence. Et puis il a assisté aux sanglantes guerres de religion entre catholiques et protestants. Et pourtant, c'est un immense maître de vie.
Maître de vie et maître de joie, parce qu'il n'était pas du tout incapable de joie. Là, c'est vrai qu'il a une vie moyennement difficile, parce qu'en même temps, c'est un noble, un seigneur, il n'a jamais manqué d'argent. C'est vrai qu'il a perdu 5 de ses 6 enfants. Lui, il écrit dans les essais, j'ai perdu 3 ou 4 enfants. Il ne sait même plus le nombre qu'il en a. Ce qui veut dire, ça n'a pas été non plus une souffrance atroce. Le grand malheur de Montaigne, chacun le sait, c'est la mort de son meilleur ami, Étienne de la Boétie, qu'il aimait passionnément. Et au fond, on doit l'existence des essais à la mort de la Boétie. C'est pour surmonter ce deuil que Montaigne, finalement, s'est mis à écrire, disant au papier ce qu'il ne pouvait plus dire à son meilleur ami. Mais il faut insister sur le fait que, quelque difficile que soit la vie, notamment parfois celle de Montaigne, notamment à cause des souffrances atroces, là pour le coup, des coliques néphrétiques.
C'est un
moi,
point
j'en
commun.
Ai,
c'est
j'en
un
ai
point
eu deux, commun. Je sais ce que ouais, c'est. Ouais. Sauf que lui, il n'y avait pas de médicaments, il n'y avait pas d'antalgiques. Et donc, il a vécu pendant des semaines et à répétition ces atroces souffrances. Et pourtant, la sagesse de Montaigne se résume en un mot. À la fin des essais, il écrit simplement « Pour moi donc, j'aime la vie ». Et cet amour de la vie, pour moi, c'est le secret de la sagesse de Montaigne. La sagesse, c'est pas l'amour du bonheur, comme on le croit parfois. Pas besoin d'être sage pour aimer le bonheur. N'importe quel crétin est capable d'aimer le bonheur. La sagesse, ça n'est même pas l'amour de la sagesse. N'importe quel philosophe est capable d'aimer la sagesse. Philosophia, ça veut dire l'amour de la sagesse. Sauf que la vraie sagesse, pour moi et je crois pour Montaigne, c'est pas l'amour du bonheur, c'est pas l'amour de la sagesse, c'est l'amour de la vie. Heureuse ou malheureuse, sage ou pas, et bien sûr, aucune vie n'est jamais heureuse ou sage dans son entier. Et donc Montaigne nous aide à aimer la vie dans son imperfection. Et c'est la phrase de Montaigne peut-être que j'aime le plus. Montaigne écrit dans les essais « Je veux qu'on agisse et qu'on prolonge les offices de la vie tant qu'on peut, et que la mort me trouve plantant mes choux, mais nonchalant d'elle, et encore plus de mon jardin imparfait. » Le jardin imparfait, c'est la vie elle-même, c'est la condition humaine. Il faut accepter son imperfection. Et je disais à mon ami Christophe André qu'au fond, il m'est arrivé plusieurs fois de me surprendre dans les conférences que j'ai faites avant le confinement sur mon livre et sur Montaigne, de dire qu'au fond, la sagesse de Montaigne peut se résumer dans l'un des livres, dans le titre de l'un des livres de Christophe André, « Heureux, libres et imparfaits ». Voilà, Montaigne est peut-être le premier dans l'Occident moderne qui nous apprend que la vraie sagesse, c'est d'apprendre à vivre libre, heureux et imparfait.
Christophe André.
Oui, oui, merci André de faire référence à mon bouquin. Mais tu disais que Montaigne est un type formidable et c'est pour ça qu'on l'apprécie. Et c'est vrai que vraiment ce qui transparaît de la lecture de ses essais, c'est peu à peu un sentiment de proximité, de sympathie, d'affection qui monte pour ce bonhomme qui, pour autant, est très différent de nous. Il a vécu une époque très différente. Comme le disait André Comte-Sponville, c'était un privilégié. C'était quelqu'un qui a accédé au plus haut personnage politique de son époque. Il a reçu le futur roi Henri IV à plusieurs reprises dans son château. Il a été maire de Bordeaux. Et malgré ça, il reste d'une proximité avec ses lectrices et ses lecteurs contemporains qui est incroyable, incroyable, malgré la distance des siècles, malgré finalement sa culture qui est très différente de la nôtre. Il cite fréquemment des auteurs latins, des des auteurs grecs qui, pour la plupart, sont oubliés des lecteurs contemporains. Et pourtant, sa manière de les faire rentrer dans sa vie, de leur permettre d'alimenter ses réflexions, nous le rend en permanence proche et sympathique.
Frédéric Schifter, ce que vous aimez chez Montaigne, c'est qu'il ne prétend à aucune vérité, à aucune certitude.
Oui, ça d'une part, oui, son scepticisme est bien connu, et sur le plafond de sa librairie, enfin de son bureau, il avait inscrit des sentences. Alors il avait une préférence pour Pyrrhon, pour Sextus, Empiricus, pour l'Ecclésiaste aussi, et effectivement c'était un esprit sceptique. Enfin, alors, je ne sais pas s'il n'aimait pas la vérité, en tout cas il n'aimait pas la certitude, et il aimait balloter, pour lui, toute opinion avait peut-être son poids, mais en même temps son côté dérisoire. Moi, ce qui me plaît chez Montaigne, c'est surtout dans son avant-propos dans les essais, quand il met en garde son lecteur, il lui dit « Je n'y ai eu aucune préoccupation de ton service ». Autrement dit, il est vraiment, et là je reviens sur cette idée de dilettante, c'est-à-dire que c'est un penseur, ce n'est même pas un philosophe pour moi. J'ai fait la différence entre les philosophes et les penseurs. Les philosophes accouchent de traités très, 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 très sérieux, comme ça, tandis que les penseurs, au fond, laissent parler leur subjectivité, qui est souvent très rigoureuse, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais Montaigne n'est pas un donneur de leçons, ce n'est pas un donneur de leçons de sagesse. Il n'a aucune préoccupation du service de son lecteur. Et il dit aussi, et d'ailleurs il a une certaine sévérité à l'égard de la philosophie, en tout cas des sagesses et des éthiques, comme on dit aussi, puisqu'il dit quelque chose du genre « à quoi faire ces pointes élevées de la philosophie sur lesquelles aucun être humain ne se peut rasseoir et ces règles qui excèdent notre usage et notre force ?» Je vois souvent qu'on nous propose des modèles de vie lesquels ni celui qui le propose ni celui qui l'écoute n'ont aucune espérance de suivre, ni qui plus est envie. Moi, je trouve que c'est vraiment un pour moi, c'est un ami parce que effectivement, c'est quelqu'un qui démystifie totalement le discours moralisateur et ou en tout cas éthique de la philosophie. C'est quelqu'un tout simplement qui témoigne de son expérience du monde et on s'y reconnaît. Par en effet un effet de sympathie.
André Comte-Sponville.
Oui, c'est un philosophe qui ne croit pas tout à fait à la philosophie et qui n'en philosophe que mieux. C'est un sage qui ne croit pas tout à fait à la sagesse et qui n'en est que plus sage. Par exemple, il écrit dans les essais à propos des sages, notamment stoïciens, « tant sage qu'il voudra ». Mais enfin, c'est un homme. Qu'est-il plus caduque et plus de néant ? Autrement dit, et c'est ça qui fait la modernité de Montaigne, c'est pour ça qu'il est si proche de nous, c'est qu'au fond, toutes les idées vieillissent, toutes les doctrines, les idéologies vieillissent. Mais justement, Montaigne ne croit en aucune doctrine, en aucune idéologie. Il se méfie des idées, et c'est parce qu'il écrit au plus près de lui-même, comme être humain, comme sensibilité, comme pouvoir de réflexion, et non pas comme auteur de doctrine ou de système, qu'il est tellement proche de nous. Vous savez que Wittgenstein dira au XXe siècle, « La philosophie n'est pas une doctrine, mais une activité ». Eh bien ça, c'est exactement cette activité que pratique Montaigne. Il ne croit en aucune doctrine, il les connaît toutes, il a une culture philosophique, notamment sur les penseurs de l'Antiquité, formidable, mais il n'y croit pas tout à fait. Et même, il n'arrive pas à croire, il y a un passage dans les essais où il explique qu'il n'arrive pas à croire que Platon ait vraiment cru à ses idées, que qu'Épicure ait vraiment cru à ses atomes. Moi qui lis les deux, je suis certain que Platon croyait à ses idées et qu'Épicure croyait à ses atomes. Et voyez, Montaigne est tellement libre d'esprit qu'il prête aux autres auteurs une liberté d'esprit qui est la sienne, mais qui assurément n'était pas la leur.
Bonjour Marie-Laure Sunshein de Femme Actuelle, bienvenue.
Bonjour Ali.
Quelle est votre première question, ma chère Marie-Laure, comme tous les mardis?
Alors, je veux qu'on agisse, hein, d'où André Comte-Sponville, vraiment comme cette espèce de mantra de Montaigne. Si on fait un saut dans le temps et qu'on se replace aujourd'hui, puisque Montaigne nous dit que nous sommes nés pour agir, que notre vie n'est que mouvement, comment aurait-il vécu le confinement, cette privation de liberté de mouvement, justement, lui qui connut plusieurs épidémies, hein, notamment de peste, on l'a dit en début d'émission, aurait-il cherché dans des joies simples de quoi profiter de la vie malgré tout ?
Il se serait vraisemblablement confiné dans sa tour, vous savez, dans le château de Montaigne qui a brûlé, mais la tour où il vivait, où il écrivait les essais, est restée intacte. Il aurait fait ce qu'il faisait habituellement, il aurait feuilleté ses livres, dicté ou écrit les essais. Voilà, il aurait fait au fond comme nous. Hein, et je me souviens, j'avais été interviewé au tout début du premier confinement, une question un peu du même style que la vôtre, et je disais qu'au fond, à lire Montaigne, il fallait nous conseiller les uns aux autres un confinement à la fois nonchalant et actif. Nonchalant, c'est-à-dire sans excès d'angoisse, parce que je crois que l'excès de peur est toujours néfaste, mais actif. Et on a tous pu vérifier au long de ces deux confinements que la difficulté du confinement, c'était que parfois, il devient difficile d'agir, et c'est pour ça que le confinement nous pèse. Et que comme tout le monde, évidemment, je souhaite qu'on en sorte le plus tôt possible. Mais enfin, je pense que Montaigne l'aurait respecté. D'ailleurs, quand la peste est arrivée à Bordeaux, il a appliqué un geste barrière tout à fait radical, une distanciation sociale extrême, puisqu'il a foutu le camp. Et sincèrement, c'est pas moi qui le lui reprocherais. Et donc Montaigne, qui tient beaucoup à la santé, qui n'en fait pas une religion, bien sûr, il met la sagesse, la vérité, l'amitié plus haut que la santé, mais c'est peut-être le plus précieux de tous les biens, si vous voulez. Et donc Montaigne aurait tout fait pour ne pas attraper la Covid. Et en même temps, sans doute, il ne serait pas laissé emporter par la peur, comme parfois certains de nos contemporains, me semble-t-il, le font un peu exagérément. Vous savez, il y a une phrase dans les essais de Montaigne qui résume assez bien mon état d'esprit depuis le début de la pandémie. Montaigne écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Et je crois qu'effectivement, notre société aujourd'hui est atteinte d'une peur, alors justifiée bien sûr par cette pandémie, mais parfois aussi un petit peu exagérée, parfois un peu paralysante et qui me désole, spécialement quand je pense aux jeunes d'aujourd'hui qui vivent quand même leur jeunesse dans des circonstances particulièrement difficiles. Et donc, pour ma part, je m'interdirais absolument de leur faire quelques leçons que ce soit. Mais je pense souvent à eux avec beaucoup d'inquiétude, autant que mes enfants font partie des jeunes adultes. Je pense que Montaigne nous dirait ceci. Ne vous laissez pas emporter par la peur. Faites ce qui dépend de vous, comme disaient les stoïciens. Soyez prudents, respectez les gestes barrières, etc. Mais ne nous laissons pas collectivement emporter par la peur. Ne faisons pas en sorte que la peur de la mort l'emporte sur l'amour de la vie.
Frédéric Schifter.
Ah ben oui, évidemment, je pense que Montaigne nous inviterait à la prudence, au sens à la fois banal du terme, enfin je veux dire ordinaire, et puis à la prudence au sens aussi philosophique, c'est-à-dire une action, agir avec discernement, ne pas se laisser aller à des émotions primaires, etc., et faire en sorte que effectivement dans notre que nous naviguions au milieu des périls avec discernement. Maintenant, André Comte-Sponville dit que Montaigne plaçait la sagesse au-dessus de la santé. Je ne crois pas, parce que je vois dans Montaigne une certaine obsession du temps qui passe et de la vieillesse qui le gagne. Et il y a cette expression, je ne me souviens plus très bien comment il dit ça, mais au fond, la mort bouscule notre jeunesse sans que nous nous en rendions compte. Et c'est pourquoi il se contemple, il regarde un peu avec le temps ce que deviennent ses muscles, ce que devient son visage, ce que devient son corps, quoi, tout simplement. Et des fois même, il ne se reconnaît plus. Je contemple mes portraits quand j'avais 20 ans et celui que j'ai maintenant à 50 ans, et je ne me reconnais plus. Je pense qu'il est obsédé effectivement par les questions de santé. D'ailleurs, à tel point, d'ailleurs, comme vous l'avez rappelé, qu'il a fui Bordeaux pour éviter la peste, et il a bien fait, bien entendu. Bon, quand il parle aussi de la sagesse et rapportée à la question de la santé, il a une formule, moi, qui m'a toujours plu. Il dit, au fond, nous avons la sagesse de nos organes. Et pour lui, ce qui compte, effectivement, c'est pour jouir de la vie, il faut être en bonne santé, quoi. Pour jouir de la vie, il faut avoir un corps qui soit en adéquation avec les plaisirs que nous offre la nature, le monde, enfin je ne sais pas comment ils disent ça, la fortune aussi, c'est-à-dire le hasard. Et voilà pourquoi il y a parfois même chez lui des considérations, je dirais pas hygiéniques ni médicales, mais bon, même quand il parle des plaisirs de la chair, il parle de la tempérance, enfin il est quand même assez, pas obsédé, mais en tout cas il est assez précautionneux, on va dire, en matière de santé, en ce qu'il en fait la condition nécessaire et peut-être pas suffisante, mais nécessaire du plaisir de vivre.
Alexia Rivière et Claire Destacan m'ont aidé à préparer cette émission avec la collaboration de Manon Cancé, à la technique ce matin, Pauline Laverdure et Kevin Pelot, à la réalisation Stéphanie Texier, et on écoute Vanessa Paradis. Vanessa Paradis interprétée, Tandem.
Un philosophe a dit un jour, lorsque quelqu'un ou quelque chose meurt, quelqu'un ou quelque chose n'est ailleurs.
Grand bien vous fasse.
Va boire un verre.
Sur France Inter.
Comment Montaigne peut nous aider à mieux vivre? C'est la question que nous posons ce matin au philosophe André Comte-Sponville, qui publie un passionnant dictionnaire amoureux de Montaigne et à Frédéric Schifter. Et nous accueillons Frédéric. Bienvenue Frédéric.
Bonjour.
Alors vous avez créé un groupe de lecture autour de Montaigne, c'est ça?
Exactement. Donc nous sommes à Toulouse et nous sommes 11 amis. Mmh. On se retrouve, nous venons de démarrer, on se retrouve chaque mois, le samedi après-midi, avec un programme de lecture. On s'est dit qu'on se donnait un an pour pouvoir lire Les Effets de Montaigne tous ensemble. sachant que moi je suis la seule qui ai fait des études de philosophie, mm-hmm. et d'ailleurs j'étais une ancienne élève d'André Comte-Sponville. Et voilà. Et nous avons, nous choisissons d'un mois sur l'autre les chapitres que nous allons étudier. Et l'idée après, c'est de nous retrouver, de partager nos réflexions, de dire en quoi ça nous parle, quel écho ça nous fait pour nous-mêmes et aujourd'hui, et en quoi ça répond à quelque chose pour nous, en quoi ça nous inspire aussi. Puisque j'ai choisi Montaigne et je l'ai proposé à mes amis, parce que Montaigne, c'est comme un ami dans la vertu, un ami dans le bien, et il pose tout un tas de questions, que ce soit sur l'éducation, l'amour, les sciences, les animaux, etc. Donc, il a des sujets qui sont très variés, et jamais il ne cherche à nous persuader. Il nous fait réfléchir à partir de ses observations, de ses constatations, et nous, on le suit dans ce mouvement. Donc, l'idée, c'est à plusieurs de faire nous aussi ce chemin, à partir des sujets qu'il traite, et de nous mettre en mouvement. Parce que, comme le disait André Comte-Sponville, la sagesse, c'est aimer la vie. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir rester vivant et de ne pas rester sur des positions dogmatiques, des positions de peur, etc. Et de pouvoir, nous aussi, être dans ce mouvement de la vie et nous interroger dans cette époque qui est quand même difficile et qui est quand même troublée. Mmh. Voilà notre expérience.
Vous savez quoi, Frédéric? J'aimerais être une petite souris pour assister à votre groupe de lecture sur Montaigne. André Comte-Sponville, c'est une magnifique initiative.
Hein. Oui, c'est une très bonne idée, d'autant qu'on ne l'a pas dit, mais enfin, dire un mot quand même. C'est vrai que la lecture des Destins de Montaigne, c'est difficile parce que c'est du français moderne, c'est pas de l'ancien français, mais c'est du français moderne du XVIe siècle malgré tout. Donc sa langue n'est plus tout à fait la nôtre. Alors, à bien des égards, ça rajoute de la saveur. Il y a des formules dans Montaigne qui sont d'autant plus belles qu'elles sont justement dans cette langue particulière. Par exemple, quand il écrit « Le monde n'est qu'une branloire pérenne ». Branler en vieux français, ça veut dire bouger, changer. Et il continue « Le monde n'est qu'une branloire pérenne. Toute chose y branle sans cesse. » La terre, les rochers du Caucase, les pyramides d'Égypte, et du branle public et du leurre. La constance même n'est autre chose qu'un branle plus languissant. Vous voyez cette saveur incroyable, cette langue tellement sapide, tellement inventive, concrète, charnelle, mais en même temps, c'est une difficulté. Et donc c'est une très bonne idée, effectivement, de se mettre à plusieurs pour te donner du courage. Il faut dire que la difficulté va régresser. Plus on prend l'habitude de les montagnes et plus ça devient facile. Mais il faut quand même dire à nos auditeurs qu'au départ, c'est quand même un effort. Et j'ai aussi fait mon dictionnaire amoureux de Montaigne pour aider les lecteurs à s'y mettre. Parce qu'en même temps, un dictionnaire amoureux, c'est aussi une espèce d'anthologie. Donc je cite les plus belles pages de Montaigne, je les commande, je les mets en scène, en perspective, si vous voulez. Parce que je sais d'expérience que se lancer seul dans la lecture des scènes de Montaigne, ce n'est pas facile. Et donc bravo, chère madame, pour cette initiative.
Et vous conseillez les traductions en français moderne ?
Alors, c'est une question un petit peu embarrassante. Il faut en tout cas prendre au moins une édition où l'orthographe est modernisée, l'orthographe et la ponctuation, parce que sinon, c'est vraiment d'une difficulté écrasante. Si vous arrivez à lire une édition où le texte est le même, mais simplement l'orthographe modernisée, c'est le mieux, parce qu'on est au plus près de la saveur que j'évoquais. Si ça vous paraît trop difficile, bien sûr, mieux vaut lire Montaigne dans une adaptation, dans une modernisation, que ne pas le lire. Alors, je donne dans mon dictionnaire les trois éditions les plus répandues en français moderne, et effectivement, encore une fois, mieux vaut lire Montaigne en français moderne que ne pas le lire. Mais voyez, quand il y a « Le monde n'est qu'une branloire pérenne », est-ce qu'on traduit branloir ou pas? C'est une vraie question. Si vous le traduisez, vous allez en perdre une partie de la saveur, malgré tout. Vous voyez? Donc voilà. Si on peut le lire dans le texte original, avec uniquement l'orthographe modernisée, c'est mieux. Si on n'y arrive pas, bien sûr, prenez une édition où le français est modernisé.
Merci beaucoup, Frédéric, de nous avoir appelés. Nous accueillons Marie. Bienvenue, Marie.
Merci. Merci de prendre mon témoignage.
Alors, pourquoi est-ce que vous aimez Montaigne? Pourquoi Montaigne est-il un ami?
Ah, c'est vraiment un ami depuis que j'étais en classe de philo. Ça m'a aidé. Alors, je n'ai pas compris de la meilleure manière à cette époque-là, mais j'en ai eu besoin, je l'ai repris parce que je l'avais toujours sous le coude. Je l'ai repris beaucoup plus tard, à un moment de ma vie où je me posais des questions et j'avais besoin de prendre du recul. Et ça m'a énormément aidé et c'est vraiment... Je le garde comme ami. Et il m'a aussi fait découvrir la Boétie, qui m'a, lui, énormément aidé avec son traité sur la servitude volontaire. Et ça m'a aidé énormément à me sortir de, je vais dire, de la gangue judéo-chrétienne dans laquelle j'avais, ma culture m'avait élevée. Et donc prendre du recul par rapport à tout cela et penser par moi-même. Donc voilà, deux merveilleux écrivains.
Merci beaucoup Marie de nous avoir appelé. Frédéric Schifter, vous le dites très souvent, Montaigne, c'est davantage pour vous un inspirateur qu'un éducateur. Expliquez-nous.
Oui, en fait, il n'enseigne rien, d'accord. Il témoigne de son expérience du monde. Je ne sais pas dire la chose autrement. Et il trouve des formules. C'est un écrivain. Enfin, c'est pour ça que je le mets du côté des penseurs. Suran disait les philosophes écrivent pour les professeurs et les penseurs, ils écrivent pour les écrivains. Pourquoi ? Parce qu'ils sont eux-mêmes écrivains. Moi, je classe Montaigne dans la catégorie des écrivains parce que, comme vient de dire d'ailleurs très bien André Comte-Sponville, il a des formules absolument jubilantes, jubilatoires et savoureuses. Donc non, ce n'est pas un éducateur, c'est un écrivain qui trouve des formules pour expliquer son expérience, pour illustrer, pour exprimer son expérience du monde et d'une façon générale pour... c'est pas comme les Lumières, si vous voulez, le mouvement des Lumières au XVIIIe siècle, qui vont tenter comme ça de créer une encyclopédie pour éclairer les humains. Et donc, oui, non. Montaigne, lui, il ne veut rendre aucun service à son lecteur. Simplement, il témoigne de son expérience du monde. Je me répète un peu, mais il trouve les formules adéquates pour renforcer un peu notre lucidité. Ça, c'est mieux que la connaissance, si vous voulez. Éclairer les hommes, ça, je crois qu'ils s'en moquent, mais les inviter à des exercices de lucidité, ça, je crois que c'est son plaisir, et c'est aussi le nôtre.
Le but de notre carrière, c'est la mort. C'est l'objet nécessaire de notre visée. Si elle nous effraie, comme est-il possible d'aller un pas avant sans fièvre? Le remède du vulgaire, c'est de n'y penser pas. Mais de quelle brutale stupidité lui peut venir un si grossier aveuglement? Ôtons-lui l'étrangeté, pratiquons-le, accoutumons-le, n'ayant rien si souvent en la tête que la mort.
Même sur l'attitude devant la mort, Montaigne n'a pas vraiment évolué du début à la fin des essais. Mais hésiter. Comment vit-on le mieux ? En ayant toujours la mort à l'esprit, comme Cicéron et les stoïciens, ou bien en y pensant le moins possible, comme Socrate et les paysans ? Partagé entre la mélancolie et la joie de vivre, Montaigne a tergiversé, comme nous tous. Et sa leçon finale avait été énoncée dès le début.
Je veux que la mort me trouve plantant mes choux.
Un extrait d'Un état avec Montaigne d'Antoine Compagnon que vous pouvez écouter ou réécouter sur l'application Radio France. André Comte-Sponville, la mort, c'est donc l'un des fils conducteurs des essais. Il écrit « Le but de notre carrière, c'est la mort ».
Oui, il l'écrit, mais il était plutôt dans la première période de l'écriture des essais, parce qu'au début, il a voulu, comme les stoïciens, c'était dit par Antoine Compagnon, penser à la mort toujours, pour se roidir, comme il disait, contre elle. Et puis, au bout du compte, il se dit, à quoi bon s'y préparer tellement, puisque on est sûr d'y parvenir. Vous savez ce que disait, je ne sais plus quel vieil écrivain, au fond, la mort, c'est le seul examen que personne n'ait jamais raté. Eh bien, Montaigne, à sa façon, dit la même chose, il écrit dans les essais, « Si tu ne sais mourir, ne t'en chaud, ne t'en fais pas. Nature t'en informera sur le champ, pleinement et suffisamment. » Autrement dit, à quoi bon se préoccuper tellement de la mort, puisqu'on est certain d'y arriver? Et donc, ce qui compte pour Montaigne, il le dit expressément, c'est pas la mort, c'est la vie, bien sûr. Simplement, accepter d'être mortel, accepter la finitude, ça fait partie de l'apprentissage de vivre. Mais ce qui est important, ce n'est pas la mort, ce qui est important, c'est la vie et l'amour de la vie.
Montaigne ne cache pas que la mort l'épouvante. Hein. Il faut faire, et vous le dites en filigrane, il faut faire de la mort l'invité permanente de nos plaisirs et de nos jours.
Il faut y penser, mais là encore, c'est plutôt au début de la rédaction des essais qu'il insiste beaucoup sur ce thème. Alors, c'est vrai que le thème de la nonchalance apparaît dès la première édition, mais ça va se développer. C'est vrai que la sagesse de Montaigne va se faire avec les années de plus en plus souriante. Disons, En gros, il va s'éloigner des stoïciens et se rapprocher des épicuriens, sans être en rien épicurien au sens de la doctrine. Mais pour ce qui est du tempérament, le plaisir lui importe de plus en plus et la mort l'intéresse de moins en moins. Et ce qui est très étonnant, il faut quand même en dire un mot, c'est que Montaigne, qui est censé être catholique, enfin qui est catholique officiellement, qui va à la messe, qui récite le Notre Père, quand il parle de la mort, il n'évoque jamais quelque paradis, enfer ou résurrection que ce soit. La mort, il la pense comme les anciens, et spécialement comme les épicuriens, comme Lucrèce, qu'il cite extrêmement souvent, comme étant le néant. Et c'est très étonnant de voir ce catholique faire comme si il ne l'était pas. Et alors, l'hypothèse que fait notamment mon vieux maître ami Marcel Conche, c'est que Montaigne s'installe dans la perspective du pire. Bon, s'il y a une vie après la mort, tant mieux. Mais s'il n'y en a pas, eh bien vivons comme s'il n'y en avait pas. Comme ça, au moins, on aura vécu cette vie le plus intensément possible.
Frédéric Schifter.
Oui, à propos de la mort, il y a tout un chapitre des essais qui s'appelle « Que philosopher, c'est apprendre à mourir ». Bien entendu, il ne prétend pas que philosopher, c'est apprendre à mourir. Il prétend plutôt que la mort qui progresse tout le long de la vie, c'est apprendre à philosopher. Et c'est ça qui compte pour lui, ce n'est pas la mort, mais c'est le mourir, c'est ça qui l'effraie. Et il a cette formule qui est à mon niveau encore une fois superbe, il dit « on peut se préparer à mourir, c'est une piperie, parce que par usage et par expérience, on peut se fortifier contre les douleurs, mais pour la mort, nous y sommes tous apprentis quand nous y venons ». La mort, oui, bien sûr, il sait très bien que c'est inévitable, mais en attendant, ce qui l'effraie, c'est le mourir. Mmh. C'est le mourir. C'est un subtil distinguo, on va me dire, mais non, puisque le mourir, c'est, encore une fois, c'est le corps qui finit par ne plus permettre de jouir de la vie. C'est ça qui compte pour lui.
Allez, il est temps de retrouver notre camarade Christophe André. C'est chose vue en direct de chez lui.
France Inter.
T'es quoi, t'es médecin, psychiatre?
Grand bien vous fasse.
Psychothérapeute. Qu'est-ce qui me prouve que t'es psychothérapeute?
Les choses vues de Christophe André.
On vit vraiment une drôle de période. Une période un peu folle qui nous pousse à des réactions qui le sont tout autant. Énervement et abattement, frustration et incompréhension, rouspétance et incohérence. Bref, nous aurions bien besoin d'un peu de sagesse. Quand on parle de sagesse, on cède souvent à deux stéréotypes. Le premier est de penser tout de suite à un vieux monsieur barbu, figure traditionnelle du sage. Mais nous devrions moderniser un peu nos clichés sur la sagesse, car il y a aussi, bien évidemment, des femmes sages, même si l'on parle moins d'elles. Et puis, il y a un autre stéréotype, la sagesse comme une tradition orientale. Fermez les yeux, rêvez un peu. Vous entrez dans un monastère mystérieux et exotique. Vous marchez lentement sur une allée cheminant entre deux jardins zen. Et tout au fond, vous apercevez, assis en position du lotus, un vieux maître ou une antique maîtresse au beau visage impassible qui vous attend pour vous initier à la sagesse. Ça donne envie. Mais inutile de prendre l'avion pour chercher au loin. Les figures de sagesse se retrouvent en tout lieu, et notamment en Occident. Ainsi, nous parlons aujourd'hui de Montaigne, qui fut en Dordogne et en son temps un homme sage et prudent, dont les propos peuvent nous aider aujourd'hui encore. Car un humain qui écrit « Quand on me contredit, on éveille mon attention et non pas ma colère » a beaucoup à apprendre à ses semblables. Je répète parce que les phrases de sagesse, il faut les répéter. Quand on me contredit, on éveille mon attention et non pas ma colère. Mon beau-père, lui aussi, était pour moi un modèle de sagesse au quotidien, avec une incroyable capacité à extraire du bonheur de tous les moments de sa vie, même des instants peu réjouissants à première vue. Ainsi, ayant fait un jour, dans sa maison reculée du Pays Basque, une grave chute sur le crâne, suivie d'une hémorragie, il avait dû être évacué par hélicoptère vers l'hôpital de Bayonne, où examens et soins lui furent prodigués. Lorsqu'il nous téléphona le soir venu pour nous raconter ses aventures, il ne parla
pas un instant de ses peurs ni de ses 20 points de suture, mais de la compétence et de la bienveillance des soignants et des pompiers, de son incroyable voyage en hélicoptère qui l'avait enchanté et de la chance qui avait été la sienne. Il donnait toujours la priorité à tout ce qui pouvait aider à mieux vivre, à rendre l'existence plus belle. C'était sa sagesse à lui. Notre invité d'aujourd'hui, André Comte-Sponville, pour qui j'ai estime et affection, a un jour défini la sagesse ainsi. Le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité. Mon beau-père, qui aimait le genre humain, aurait parlé quant à lui du maximum de bonheur dans le maximum de générosité. Alors, additionnons les deux et nous aurons peut-être une formule de sagesse idéale, le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité et de générosité. Je suis sûr en tout cas qu'elle aurait plu à Montaigne.
Le maximum de bonheur dans le maximum de lucidité et de générosité, ce sera la maxime du jour. André Comte-Sponville, quelle était la conception du bonheur de Montaigne ? Est-ce qu'il était doué pour le bonheur, Montaigne ?
Il était moins qu'on ne le croit et plus qu'il ne le dit. Parce que lui se décrit, c'est pour ça qu'il est touchant, plutôt porté à la mélancolie, à l'inquiétude. Dès qu'il y a un petit quelque chose qui va de travers, il ne pense plus qu'à ça. Il a tendance à ruminer, comme disent aujourd'hui nos psychiatres, quand ça ne va pas. Et donc, voilà, il n'est pas zen au sens vulgaire du terme, comme si être zen, c'est être cool, quoi qu'il arrive. Et pourtant, il est plus doué pour le bonheur qu'il ne le dit, parce que finalement, il a traversé les guerres de religion, des dizaines de milliers de morts, y compris des morts chez lui, à Bordeaux et au château de Montaigne. Il a été confronté à la peste, il a perdu des enfants, il a perdu le grand amour de sa vie, au fond, qui était Étienne de la Boétie. Et malgré tout, il dit que s'il fallait revivre, il revivrait pour l'essentiel de la même façon. Il dit qu'il aime la vie, qu'il aime le plaisir. Et donc, en effet, c'est un maître de sagesse pour l'Occident. Et Christophe a raison de dire qu'il n'y a aucune raison de faire de la sagesse le bien exclusif des Orientaux. D'ailleurs, moi, dans mon dictionnaire amoureux de Montaigne, il y a un chapitre zen, parce que j'étais très frappé par le fait que tout occidental qu'il soit, évidemment, Montaigne, à bien des égards, est proche des maîtres bouddhistes zen. D'abord parce que c'est un penseur de l'impermanence. Le mourir qu'évoquait Frédéric Schaeffer, c'est pas seulement l'agonie, c'est que l'enfant que nous étions est mort dans l'adulte que nous sommes. Hier est mort dans aujourd'hui. Et donc il y a l'un des mantras que j'emprunte à Montaigne et que je cite souvent. Montaigne écrit merveilleusement « Tout contentement des mortels est mortel ». Eh bien ça, c'est une très belle définition occidentale de ce que les orientaux appellent l'impermanence. Montaigne est convaincu, comme les bouddhistes, que toute vie est souffrance. Sarvam dukkham, dit-on en sanskrit. On trouve l'idée exactement chez Montaigne. Et malgré ça, ou à cause de ça, par ça, dans l'impermanence, dans la confrontation avec l'insatisfaction, avec la souffrance, inventer un art de vivre heureux, de vivre à peu près heureux. C'est-à-dire heureux, parce qu'au fond, la conception que Montaigne se fait du bonheur, c'est pas du tout la béatitude ou la félicité, ça n'est pas du tout une joie constante, permanente, immuable. Montaigne sait bien que c'est impossible. Non, non, il faut accepter que notre bonheur soit toujours imparfait pour le rendre possible. Mais un bonheur imparfait, c'est quand même beaucoup mieux que le malheur.
Et vous pouvez réagir à la chronique de Christophe André sur la page Facebook de Grand Main Vous Fasse. When will we die? Life isn't fair. I miss the high. I live a lie. And one day we'll die. No one will care. Take me inside. I'll meet you there. We'll be right back.
things cannot go wrong. To the wall, let me free you. Protect me from evil. Give me a reason. Where are the good people? Give us our freedom. Where are the dreamers? Can you show me the dreamers? And we are the creatures, prophets and teachers. We are believers, lost in amnesia. Will you let me fade away? I wanna fade away. Am I?
Mac Miller interprété Yeah.
Grand bien vous fasse, Ali Rebbi, sur France Inter.
La perte d'un être tant aimé, comment la pleurer avec pudeur et retenue? Ô frère, quel malheur pour moi que ton trépas! Tu as emporté avec toi toutes mes joies que ta vie nourrissait d'amour tendre. En mourant, frère, tu as brisé tout mon bonheur. Dans la tombe, à ta suite, mon âme s'en est allée. Depuis que tu n'es plus, de mon esprit je chasse tous ces travaux qui faisaient ces délices. À ma voix jamais plus ne répondra la tienne. Jamais plus mes yeux ne te verront, ô frère, qui m'était plus cher que ma vie. Et pourtant, c'est certain, je t'aimerai toujours.
Extrait des Essais de Montaigne, lu par Thibaut de Montalembert. André Comte-Sponville, que nous dit Montaigne de l'amour? Au fond, il préfère peut-être, et sans doute, l'amitié à l'amour.
Ah, tout à fait. D'ailleurs, j'ai fait une entrée dans mon dictionnaire amour-amitié. Je traite les deux notions ensemble et par différence l'une avec l'autre parce que c'est ce que fait Montaigne. Les plus beaux textes de Montaigne sur l'amour se trouvent dans le chapitre qui s'appelle De l'amitié. Et d'ailleurs, ce qui m'a beaucoup frappé en lisant ces textes, c'est qu'au fond, en effet, vous avez raison, Montaigne préfère l'amitié à l'amour. Moi, c'est l'inverse. Je préfère l'amour à l'amitié. Et s'agissant d'amour, Montaigne préfère la passion amoureuse au couple. Moi, c'est l'inverse. Je préfère le couple à la passion amoureuse. Moyennant quoi, par nos différences même, Montaigne m'a aidé à y voir plus clair et dans ma pensée, mais je dirais encore plus dans ma propre vie. Et c'est ça la lecture de Montaigne. Comme disait Frédéric Schaeffer, il veut pas nous convaincre, nous imposer quelque doctrine que ce soit. Il nous dit ce qu'il en pense. Et en nous disant ce qu'il en pense, il nous aide nous-mêmes à penser. Si bien que, voilà, sur l'amour et l'amitié, ou en un sens, je suis plutôt à l'opposé de Montaigne, du moins des deux points de vue que je viens d'évoquer, il m'a formidablement éclairé sur mes propres positions.
Pourquoi met-il l'amitié au-dessus de l'amour?
Alors, pardon?
Pourquoi met-il l'amitié au-dessus de l'amour?
Il met l'amitié au-dessus de l'amour. D'abord, il prend l'amour au sens réduit du terme. Un homme, une femme, éventuellement deux hommes, deux femmes s'il y a homosexualité, ce qu'il évoque en passant. Mais pour lui, l'amour est indissociable de la possession charnelle. L'amour, c'est d'abord faire l'amour. L'amitié, c'est la fusion des âmes. Et donc, Montaigne accorde encore plus... Montaigne qui aime l'amour physique, hein, qui est très génital, comme il dit lui-même, mais il met évidemment la rencontre, la fusion des âmes, encore plus haut que l'amour est. Malheureusement, il pense qu'à son époque, l'amitié entre un homme et une femme, c'est impossible. Et donc, il est obligé de préférer l'amitié parce qu'aucune femme ne peut lui apporter cette fusion des âmes. La chance que nous avons et que nous devons notamment à la libération des femmes, c'est que maintenant nous pouvons vivre, et au fond c'est ça un couple heureux, la rencontre des corps et la fusion des âmes simultanément.
Frédéric Schifter.
Je crois que Montaigne reprend un peu la conception aristotélicienne de l'amitié, enfin l'amitié selon le bien, selon la vertu, etc. Oui, c'est-à-dire le commerce de deux âmes, le commerce fructueux, savoureux et bien sûr aimant, bien entendu, parce que dans l'amitié il y a quand même un sentiment fort. Mais il ne faut pas non plus oublier que Montaigne a eu sur la fin de sa vie une sorte de, comment la qualifier, une amitié amoureuse, un amour amical avec une jeune fille, Marie de Gournay, qui d'ailleurs prendra soin de son œuvre pour la postérité, et il la considère comme sa fille. Mais enfin, on voit bien que dans les paroles la manière dont il en parle, on voit bien qu'il a quand même, disons, pour le moins le béguin pour cette jeune fille qui a qui, au contraire de sa propre épouse, je ne sais plus comment elle s'appelle, Françoise, je crois, il a avec cette jeune fille véritablement un commerce, disons, intellectuel ou spirituel ou philosophique, ou voilà, ce qu'il n'a pas avec les autres femmes. Et j'ai l'impression que cette jeune fille, à la fin de sa vie, a été pour lui une sorte de découverte que l'on pouvait à la fois aimer une femme d'amour et aussi éprouver pour elle une amitié.
Marie-Laure Sunshine de Fan Actuel.
Oui, justement, vous évoquiez Marie de Gournay. Est-ce qu'on peut dire que d'une certaine façon, ça a pu amener Montaigne sur le chemin d'une meilleure prise en considération de la condition des femmes? On ne va pas le qualifier de féministe, puisque, écrivez-vous, il partage une bonne partie des préjugés de son temps. À ses yeux, elles sont plus faibles que les hommes, moins raisonnables. Alors, cette amitié sur la fin de sa vie, lui a-t-elle fait voir la condition des femmes autrement?
D'abord, il faut dire que Marie de Gournay, elle, est une féministe. Et c'est même peut-être bien la première de nos féministes. Elle a écrit un livre dont le titre était « De l'égalité des hommes et des femmes ». C'est une féministe militante. Et bien sûr, ça rejoint ce que disait aussi Frédéric Schiffer, rencontrant cette très jeune femme qui l'admire passionnément. Elle a découvert Montaigne comme écrivain. Elle lui voue une espèce de culte. Montaigne est à la fois touché par cette admiration, mais surtout, il commence à se dire qu'après tout, peut-être qu'avec elle, il pourrait vivre ce qu'il a vécu avec la Boétie, c'est-à-dire une amitié, une fusion des âmes, comme il dit lui-même, mais qui pourrait éventuellement s'accompagner de la rencontre des corps. Sauf que malheureusement, pour Montaigne, à ce moment-là, c'est trop tard. Tout indique qu'il n'y a eu aucun rapport sexuel entre Marie de Gournay et Montaigne, mais sans doute que si ça avait duré, parce que Montaigne va mourir quelques années après, et peu d'années après, ça aurait influencé la pensée de Montaigne. Ajoutons que si Montaigne partage en effet, comme je le dis dans mon livre, une bonne partie des préjugés de son temps vis-à-vis des femmes, c'est sans en rajouter jamais, et qu'au fond, il est souvent au moins aussi sévère avec les hommes qu'avec les femmes. Au fond, il a tendance à considérer que les défauts des uns et des autres sont partagés.
Et j'aimerais terminer cette émission avec cette phrase de Montaigne. « Il faut retenir avec nos dents et nos griffes l'usage des plaisirs de la vie, que les ans nous arrachent des points les uns après les autres. » Merci beaucoup André Comte-Sponville d'être venu dans cette émission. Le dictionnaire amoureux de Montaigne est publié chez Plon. Demain, dans Grand Main vous fasse, qu'est-ce qu'une fête réussie ? Ça peut toujours servir la nuit de la Saint-Sylvestre.